Bonjour et bonsoir Christian Grataloup, bonsoir Vincent Lemire, et bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter en quelques mots, si vous voulez bien, l'un et l'autre, même si vous êtes déjà fort connus hein, par vos différentes productions éditoriales, toujours très remarquables et remarquées. Derrière nous, nous avons un grand écran allumé, parce que c'est une présentation un peu spéciale, et on va tout de suite comprendre pourquoi. Un atlas, c'est forcément des cartes, et des cartes, eh bien, il est préférable de les voir pour en parler, hein, plutôt que d'être un peu dans l'infraction. Donc, vos deux noms figurent sur la couverture de cet atlas historique du Moyen-Orient, dernière livraison de la déjà prestigieuse collection des atlas historiques, œuvre commune entre la belle maison Les Arènes et la revue L'Histoire. Et puisque j'évoque cette excellente revue L'Histoire, je mentionne tout de suite le nom de sa rédactrice en chef depuis 2014, Hélène Kolebka, dont le nom figure...
Héloïse,
Héloïse, j'ai appelé Hélène, effectivement. Dans le nom figure aussi sur la couverture de votre ouvrage. Donc, elle est présentée comme diplômée de Sciences Po Paris. Elle est surtout responsable des cartes publiées dans la revue L'Histoire, lesquelles sont réalisées, si les informations que j'ai reprises sont exactes, depuis 26 ans, par une structure qui s'appelle Légende Cartographie, vous en parlez peut-être tout à l'heure, dont le savoir est reconnu par les nombreux atlas qu'ils ont publiés. Alors, on en vient à vous, Christian Grataloup. Vous êtes, comme on dit, géohistorien. Professeur émérite à l'Université Paris Diderot. Vous dirigez la collection des atlas historiques aux éditions Les Arènes. Et si j'ai bien compris, c'est la sixième publication de cet atlas, de cette catégorie, avec un slogan de la maison Les Arènes qui dit « Une maison engagée, créative et qui aime surprendre ». Alors, c'est effectivement le cas. En tant que professeur des universités, vous avez une œuvre conséquente, Christian Grataloup. Vous êtes présenté, entre autres, comme épistémologue de la géographie historique, spécialiste de la didactique de la géographie, géohistorien de la mondialisation. Vous avez reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix Ptolémée, en 2007, au fameux FIGE, ou FIG. Alors, qu'est-ce que c'est le FIG? C'est carrément le Festival de Cannes des géographes, sans la Croisette, sans le Martinez et sans les soirées enfarinées.
Non, Saint-Dié, c'est quoi, pas à Cannes. Non.
Et ça se passe à Saint-Dié. Bon, oui, alors, c'est pas tout à fait la Croisette. Mais c'est le Festival international de géographie qui est extrêmement prestigieux et qui rassemble la crème des géographes du monde entier. Vous aurez la parole dans un instant, mais j'ai presque fini. Mais peut-être ce dont vous êtes le plus fier, c'est qu'en 2022, vous allez nous le dire, on a donné votre patronyme comme nom de baptême à la promotion 2022-2023 de la licence Histoire, Archéologie, Patrimoine et Environnement du Centre Université de Cambrai, établissement de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Alors maintenant, Vincent Lemire. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel. C'est l'appellation nouvelle de cet établissement qui est jeune, qui a été fait en 2020 en fusion d'un certain nombre d'établissements. Voilà, c'était Paris-Est, Marne-la-Vallée, comme on dit. Mais avec des laboratoires très prestigieux, dont un qui est très connu, qui était le laboratoire central des ponts et chaussées. L'école des ponts, c'était voilà, créé en 49. Alors, vous avez des campus à Lyon, Nantes, etc. Bon. Vous faites partie des quelques spécialistes du Moyen-Orient qui s'efforcent de présenter au grand public une version intelligente et intelligible, documentée et nuancée de ces terres régionales à partir de cette histoire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Fut-elle incroyablement longue et conflictuelle? Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire en 1998, et vous êtes parti rapidement ensuite à Jérusalem. Vous dites un peu par hasard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un des chapitres fondateurs initial de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, où, invité par Célestin Bouglé, il part un peu par hasard à Sao Paulo. C'est la même formule. Je vous souhaite le même destin que Claude Lévi-Strauss. C'est sur ce terrain.
Même espérance de vie.
Et aussi, en plus, c'est pour ça, à tous les sens. Hein. Et donc, en fait, à Jérusalem, c'est sur ce terrain de recherche que vous faites votre thèse. Publié auprès de la Sorbonne, et le titre est très beau, « La soif de Jérusalem, essai d'hydrohistoire ». Et on aura l'occasion de parler du rapport à l'eau de cette région, 1840-1940. Et puis, vous avez dirigé pendant 4 ans, de 2019 à août 2023, le Centre de recherche français de Jérusalem, placé sous la double tutelle du Quai d'Orsay et du CNRS. Vous parlez l'hébreu et l'arabe, ça ne doit pas forcément nuire quand on fait œuvre d'historien de cette région. Ça peut aider. Mal, quand même. Et puis, votre livre le plus connu, c'est L'Histoire de Jérusalem, publié sous forme de bande dessinée avec le dessinateur Christophe Gauthier aux éditions Les Arènes, en 22. et puis également avec Thomas Negaroff, excellent journaliste et historien, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit. En lisant votre atlas, précisément, j'avais dans la tête tout le temps la fameuse phrase du général de Gaulle, extraite de ses mémoires de guerre que tout le monde connaît, « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Avant que vous commentiez les 19 cartes que j'ai retenues de manière parfaitement arbitraire parmi les 300 de votre livre, je voudrais vous poser une première question. Est-ce qu'on peut avoir les idées, non pas simples, mais les idées claires, comme pour paraphraser le général, quand on se donne pour ambition de cartographier ce que vous préférez nommer, au lieu de région, du plus un lieu du monde, plus qu'une région? C'est dans votre texte, ça. Allez-y, messieurs, dans l'ordre que vous voulez.
Alors, que les cartes soient embrouillées ou qu'elles soient simplifiées, claires, c'est à vous de juger. Hein. On a essayé, effectivement, de cartographier l'Orient avec des cartes claires et simples. Et de toute façon, c'est presque une tradition de notre équipe, hein, de légendes cartographiques, de ne faire que des cartes qui sont vraiment très lisibles. Là, on distingue souvent les cartes à lire et les cartes à voir, et j'espère que nos cartes sont d'abord à voir et ensuite à lire. Ça, c'est un souci qu'on a toujours eu. Alors, l'Orient, c'est pas cartographiquement plus compliqué qu'ailleurs, hein. C'est les relations, les rapports politiques que l'on met en carte qui le sont. Mais faire l'atlas lui-même, ça posait des problèmes de choix des cartes, bien sûr. D'autant plus que tous nos atlas replongent dans le plus ancien passé. Alors ici, il n'a que 100 000 ans. Hein. Mais c'est effectivement... oui, mais l'atlas de la Terre, lui, il a 4,3 milliards d'années. Mais enfin, là, c'est quand même déjà pas mal. Il faut remonter un peu au paléolithique moyen. Et parce que... On va y revenir, puisque vous avez parlé de lieu du monde. Et ça va me permettre d'introduire la notion de carrefour, qui est absolument essentielle pour comprendre la définition même de cette région. C'est quelque chose qui ne se comprend que par rapport à d'autres régions. Ce n'est pas un découpage qui fonctionne sur son autonomie. Ce serait le monde chinois, par exemple, on aurait une autre conception du découpage. Là, on est dans quelque chose qui se comprend comme un lieu du monde, alors du monde jusqu'au XVIe siècle, je dirais du monde ancien, ce qu'on appelle, à partir du XVIe, l'ancien monde. Mais de la Méditerranée aux mers de Chine, vous avez des axes d'échange. On connaît la route de la soie, mais il y a surtout des routes maritimes. On a des axes d'échange que qui sont freinés seulement par les ensembles montagneux qu'on trouve de l'Himalaya et bien au-delà, qui autonomisent justement le monde chinois. Mais à l'ouest de cet ensemble, on a tout un ensemble de communications qui n'ont pas de... Il y a des moments où c'est plus difficile de passer. Mais enfin, ne serait-ce qu'avec les moussons dans l'océan Indien, les steppes au nord, la Méditerranée, vous avez tout un ensemble de circulations qui sont faciles. Le résultat, c'est que depuis des millénaires, et je devrais même dire depuis des centaines de millénaires, hein, c'est ce que soutient Laura Gourand, vous avez de la circulation ici. Et c'est là...
Il y a du trafic.
Oui, c'est ça, on peut le dire ainsi. Effectivement, des trafics de marchandises, d'idées, de microbes aussi. Vous avez... C'est là, par exemple, que l'on connaît les plus anciennes rencontres de Néandertal et de Sapiens. C'est justement, précisément, à cet endroit-là. Donc, vous avez là un lieu où les choses se croisent. Alors, je dis « se croisent » parce que je reprends l'expression des économistes, les fertilisations croisées. Vous avez, dès qu'une innovation est quelque part à l'ouest, en Méditerranée, ou à l'est, dans le désert iranien, dans les plaines du nord de l'Inde, en Asie centrale, bah, très peu de temps après, elle va féconder cette région. Il y a un bel exemple, dans le troisième millénaire avant notre ère, on redomestique. Enfin, on réussit cette fois-ci vraiment à domestiquer cet animal puissant qui va transformer l'histoire, qui est le cheval. Et on domestique aussi le chameau de Bactriane, d'ailleurs. Enfin, ça va jouer un rôle dans les caravanes, mais le cheval, oui, ça va être vraiment essentiel. Eh bien, dès le début du deuxième millénaire, les chars de combat sont présents en Égypte, sont présents en Syrie, puis plus tard en Iran. On a quelque chose qui a révolutionné les transports, les techniques militaires. Donc, vous avez là quelque chose où tout va converger. Mais en même temps, ces fécondations croisées, c'est là où les choses vont être innovée. Donc, il va y avoir les premières, les plus anciennes domestications de plantes et d'animaux, et les plus massives, dont des choses absolument essentielles, ne serait-ce que le blé, on peut faire toute la liste. Dont ensuite, on aura l'écriture, l'alphabet, la cité, l'État, enfin, toutes ces innovations sont ici, et toujours en premier. Et à partir de là, ça rayonne. Alors, chose importante, on y reviendra dans les différentes cartes, mais là, je l'évoque juste d'un mot, si les routes convergent, elles convergent aussi en termes d'invasion. Oui. Donc, s'il y a innovation très tôt, s'il y a apparition de cités et même d'empires très tôt, etc., il y a aussi invasion, destruction très tôt et surtout de manière récurrente. Donc, un processus historique qui n'est pas du tout celui que tout à l'ouest, on connaît en Europe, ou tout à l'est, même en Chine et surtout au Japon, hein, beaucoup plus tardif et beaucoup plus protégé.
On va le voir tout de suite, d'ailleurs, dans les premières représentations de cette ère régionale. Mais Vincent Lemire.
Oui, sur ce. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai été, comme vous l'avez dit, j'ai dirigé pendant 4 ans le centre de recherche français à Jérusalem. Et il y avait beaucoup d'archéologues là-dedans qui m'ont appris plein de trucs. Et tout ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire l'invention de la céramique, l'invention de la sépulture, les premiers villages, Aïn Malaha, la métallurgie, les premières villes. Alors, on dit Jéricho, on ne sait pas, mais enfin, dans la vallée du Jourdain, sans doute. Voilà ce qu'on sait, l'histoire des migrations, c'est l'histoire des innovations et des conquêtes, comme l'a dit Christian. Donc c'est un carrefour, c'est le plus ancien carrefour. Je vais vous raconter une anecdote. Lundi dernier, j'étais à Sharm el-Sheikh pour ce fameux sommet Trump, etc. Et Trump est arrivé avec 4 heures de retard parce que bon, ça l'amuse toujours d'être très très en retard. Et après, il a fait un discours absolument décousu, donc personne n'a rien compris. Mais il y a un truc qu'il a dit, parce que c'était derrière lui, il avait marqué en énorme Peace in the Middle East, donc c'est notre sujet, quoi. Alors, il a dit, oh, mais c'est incroyable, ça fait la guerre, ça fait 10 000 ans qu'il y a la guerre là. Moi, je viens de mettre la fin à la guerre, une guerre de 10 000 ans. Bon, alors, je sais pas trop où il venait, je comptais sur le dos, je lui dis quand même, il est fort, parce que 10 000 ans, je cherchais moi-même, même si tu prends la Bible et tout, enfin, même Gilgamesh, bon, bref. Mais après, donc ça flottait sur les dates, ça flottait un peu sur les noms de pays, il s'y retrouve pas du tout. Mais une fois, il avait confondu Azerbaïdjan et Albanie. Arménie et Albanie.
Mais c'est ce que disait le général de Gaulle. Voilà. Hein, c'est compliqué, quoi.
Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais à un moment, il dit, mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que nous, on a toujours l'impression aux États-Unis d'être au centre du monde. Et moi, bien sûr, c'est le centre du monde. On est plus fort, on a plus grande armée, j'ai le plus gros avion, j'ai le plus gros. Bon. Mais en fait, il y a qu'à regarder une carte. Il dit, we look at the map, the center is here. Il regarde, oui, Africa, Asia, Europe. Et donc, cette idée, même Donald Trump, à un moment,
il la comprenait. C'est là qu'on va voir que Donald Trump a lu d'ailleurs l'Atlas, puisqu'on voit effectivement cette représentation tout à fait étonnante dont vous allez nous parler en forme de trèfle. Ce n'est pas à 4 feuilles, hein, c'est à 3 feuilles. Et puis après, on parlera de la manière avec laquelle on nomme cette région, parce que ce n'est pas simple non plus, puisqu'il y a plusieurs appellations en fonction de ce dont on parle. Christian.
Oui, alors, le fait de faire un atlas, c'était un défi, justement, parce qu'il y a un instant, j'ai évoqué le fait que c'était un nœud dans un réseau, et le nœud central même du réseau. Et de ce fait, c'est pas une carte, elle a besoin de bords. Donc, où sont les bords du Moyen-Orient? D'ailleurs, le mot même, est-ce que c'est moyen, proche, commencer par rapport à l'extrême Orient, qu'est-ce que c'est que l'Orient? C'est une vision évidemment subjective vue d'Europe, donc quelque peu coloniale, l'orientalisme. Et voilà, donc le Middle East, le Levant, enfin, on a toutes les métaphores du lever du soleil, c'est ce que veut dire Orient, hein, le soleil qui se lève, ce que veut dire d'ailleurs Est aussi, hein, mais en viking. Mais tous ces éléments nous posent des problèmes parce que justement, on est quelque chose qui est au centre. Mais au centre, justement, souvent on dit entre 3 continents. En fait, il faut renverser la logique, car c'est là qu'on définit des directions. Et on se dit, ah ben oui, si on part vers l'Est, on va appeler ça Asie. Si on part vers le Nord-Ouest, on va appeler ça Europe. Et si on part vers le Sud ou Sud-Ouest, on va appeler ça Afrique. C'est une invention qui, au départ, est plus ou moins locale, même si ce n'est pas vraiment antique, mais surtout qui est reprise par la théologie médiévale, ce qu'on appelle la map-monde médiévale, qui coupe en 3, Et pourquoi en trois ? Parce qu'il faut que l'humanité soit divisée dans les descendants des trois fils de Noé. On descend, et voilà, Noé a trois fils. Il y en a un qui part vers, si on interprète, je dirais presque qu'on surinterprète la Genèse, l'un part vers l'est, l'autre vers le nord-ouest, et l'autre vers le sud, le plus petit dernier. Et le résultat, c'est qu'on va dire, bah, ça c'est l'Afrique, ça c'est l'Europe, ça c'est l'Asie, en reprenant des termes anciens. L'aîné, Sem, ça va donner ses mythes, hein, ultérieurement, l'aîné, Sem, ayant l'Asie, parce que l'Asie est considérée comme le lieu le plus ancien. Et à l'extrême est, il y a le lever du soleil, il y a aussi le paradis. Au-delà du paradis, c'est les ténèbres, et c'est là où Caïn a été renvoyé. Donc, on donne une cohérence. Donc, les continents, en tout cas les trois continents initiaux, sont un découpage totalement artificiel. C'est un objet historique qui n'a rien de naturel. Ça, c'est le géographe, l'ancien géomorphologue que je suis, qui vous le dit. Ça n'est pas la tectonique des plaques qui va vous l'expliquer. D'autant plus qu'évidemment, on ne le connaissait pas au Moyen-Âge. Donc,
cette présentation en trois pétales, en quelque sorte.
Donc, c'est un vieil...
1581.
C'est oui, mais alors ça, c'est un vieil héritage médiéval. Il est évident qu'on a fait des planisphères qui sont tout à fait ressemblants pour nous, déjà, dès le XVIe siècle. Simplement, il a repris cette vision, et le rond qui est au centre, vous ne pouvez pas le voir de loin, mais le rond qui est au centre, c'est Jérusalem. Donc, le territoire de Vincent. Et néanmoins, on est au XVIe siècle, la fin du XVIe. Si vous regardez en bas et à gauche, vous avez un petit pavé sur lequel il y a écrit « America ». Il y a donc une quatrième partie du monde.
Oui, on ne sait pas, ça va être... Il y a trois fils de Noé, donc on doit être, déjà, ça commence, les problèmes commencent, quoi. Oui, au centre, c'est Jérusalem. C'est la ville sainte, c'est la terre sainte. Je crois que si vous regardez d'un peu plus près entre, entre Afrique et Asie, c'est la mer Rouge, là. Hein.
Elle est rouge.
Elle est rouge.
Elle est rouge.
Oui, oui. C'est le bras de la mer Rouge. Hein, donc on est vraiment, il y a des effets de zoom qui sont symboliquement évidemment très forts. Donc sur des cartes médiévales, je pense que vous avez déjà vu ça, où Jérusalem est carrément le nombril du monde. C'est-à-dire vous avez une carte qui est ronde, et où on essaye à peu près d'agencer le monde connu. Et puis, au milieu, il y a littéralement un petit trou, enfin un nombril, qui est Jérusalem. En fait, c'est autour. Et alors, si on va à Jérusalem, ensuite, c'est la vieille ville. Ensuite, au milieu de la vieille ville, c'est le Saint-Sépulcre. Et au milieu du Saint-Sépulcre, c'est ce qu'on appelle l'ombilique. Enfin, au milieu du Saint-Sépulcre, c'est le trou dans lequel a été plantée la croix. Ça, c'est le nombril du nombril du monde. Et d'ailleurs, les gens qui vont visiter mettent leur... Voilà. Dans cette représentation-là, le monde tourne autour, en fait, évidemment, de cette histoire chrétienne, de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. C'est ça qui fait la bascule.
Mais elle n'est pas que chrétienne, cette histoire.
Bien sûr, bien sûr.
Par définition, elle est monothéiste,
oui, oui.
Des grandes religions du livre.
Puis Nouveau Testament, pour les musulmans, le nombril du monde, il est un tout petit peu, c'est pas très loin, mais il est à 250 mètres plus à l'est, sous le dôme du rocher.
Voilà, hein.
Alors, on va toucher une autre empreinte qui est celle de Mahomet, qui était avant celle de Jésus, etc. Et donc, c'est tout ça pour dire que, on le sait bien, hein, la géographie est fille de l'histoire, et l'histoire est fille de la géographie, ou peu importe, cousin, cousine, comment... Mais tout ça est très, très lié. Christian a dit que ces dénominations géographiques sont en fait des dénominations historiques, hein, au sens strict, hein, qui ont leur histoire. Mais y compris ces représentations et y compris le fait que, voilà, à Jérusalem, par exemple... Alors, à Jérusalem, tu dis le paradis, tu as raison, il était... L'Asie, pour les anciens, parfois, c'est pas loin. Hein. L'Asie, par exemple, pour les Grecs, c'est la Turquie, comme vous le savez. Hein. Juste, voilà, on est toujours l'Asiatique de quelqu'un, moins aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'Asie, aujourd'hui, a pris une... Et il y a dans les représentations, d'ailleurs, de Jérusalem, il y a les quatre fleuves du paradis aussi, hein, qui partent du rocher d'Abraham. Donc, voilà, cette centralité paradoxale du Moyen-Orient, elle se tient en fait finalement dans le terme, c'est ce qu'on expliquait dans l'introduction, Moyen-Orient, c'est-à-dire médian. Quoi.
Je vous donne la parole tout de suite, Christian, mais
on est au milieu.
Il faudrait qu'on avance sur l'appellation, parce que qu'est-ce qu'il faut dire ? Votre atlas, c'est l'atlas historique du Moyen-Orient. Alors, est-ce que Proche-Orient, Moyen-Orient, on voit aussi la version, j'allais dire presque historique, le Levant, enfin, ça c'était dans l'entre-deux-guerres, hein, Syrie, Liban. Ce qu'on a appelé le croissant fertile, là, ça nous renvoie du côté plutôt de...
Oui, bah, on va...
Qu'est-ce qu'il faut appeler,
Il y a un vocabulaire français, un vocabulaire anglo-saxon, et la bascule, elle se joue en partie là-dedans, et puis dans la polarisation vers le Golfe, qui est effectivement un peu plus tardive.
Oui, avant, j'aurais voulu dire que effectivement, cette histoire des religions monothéistes, donc, qui est un élément de définition hein, de ce Moyen-Orient, ça concerne quand même que la moitié ouest hein, de cet axe que circulait, parce que le monde des religions qu'on appelle dharmiques, en opposition des abrahamiques, c'est-à-dire hindouisme et tout le monde du bouddhisme, c'est une bonne moitié de l'humanité aussi. Le Moyen-Orient, c'est une expression qui a fini par triompher, qui est en fait Middle East, mais pas tout à fait avec le même découpage. D'ailleurs, sur la carte qu'on
le voit bien, là,
oui. Que vous avez à droite, ouais. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que justement, c'est bien une question anglophone. L'Orient, oui, au départ, c'est l'opposition empire d'Occident, empire d'Orient, c'est-à-dire la coupure de la Méditerranée romaine en deux. Donc ça remonte, vous voyez, au IIIe siècle. Mais ensuite, c'est quelque chose qui va situer la Méditerranée orientale vue par les Occidentaux, c'est-à-dire par les Européens. C'est le Mashrek, par opposition au Maghreb, qui veut dire exactement la même chose, hein, Orient-Occident. Les Français vont très longtemps, alors effectivement, ça va prendre sens dans l'entre-deux-guerres, mais très longtemps utiliser le terme « Levant », ce qui veut dire la même chose, toujours exactement l'Ouest, comme Asie, qui veut aussi dire l'Est, hein, pour les Grecs. Donc, vous avez quelque chose qui, pour le moment, n'est qu'une direction. Alors, au XIXe siècle, il y a des découpages géopolitiques qui se fabriquent dans le cadre des impérialismes, en particulier britanniques. Et les Anglais ont ce qu'on appelle, jouent ce qu'on appelle le grand jeu.
Bon. C'est le titre d'un livre de Kipling.
Alors, oui, c'est ça. C'est Kipling qui est à l'origine de cette expression. Le grand jeu, c'est l'opposition de grand empire terrestre, c'est-à-dire l'empire russe, et du grand empire maritime, c'est-à-dire l'empire britannique. Et les oppositions se font face à l'affaiblissement de l'empire ottoman, l'affaiblissement de l'Empire perse et l'affaiblissement de l'Empire chinois. Donc, les flottes britanniques, elles sont en Méditerranée orientale, c'est le Proche-Orient, le Near East, dans le Golfe d'Aden, à Bombay, le Middle East, et dans les mers de Chine, à Singapour en particulier, et Hong Kong, et là, c'est l'Extrême-Orient. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, on a repris ces découpages, mais aucun n'est très net. Les bords, on est obligé d'avoir des bords sur nos cartes, mais les bords bougent, et nos cartes, il n'y a pas un cadrage qui est appliqué régulièrement. Il est chaque fois suivant la problématique posée.
J'ai voulu tout de suite qu'on montre une carte qui pointe un des enjeux essentiels. On terminera d'ailleurs là-dessus. C'est la question de l'eau dans ce carrefour du monde. Hein, alors, c'est technique. On voit sur la colonne de gauche des histogrammes avec les précipitations d'eau mensuelles. On voit les grandes différences hein, entre Istanbul, par exemple, et puis évidemment le Caire. Hein. Mais on voit aussi sur la carte principale, avec ces nuanciers de bleu, qu'il y a un réservoir d'eau, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est la Turquie, le plateau anatolien, avec les deux grands fleuves, hein, le Tigre et l'Euphrate, qui va donner étymologiquement la Mésopotamie, hein, en grec. Et là, on retrouve en quelque sorte une des constantes du débat, non, Christian ?
Alors, oui, c'est une nouveauté par rapport aux précédents atlas. C'est le premier qui soit régional. Hein, il y en aura d'autres. Hein. Ouais. Et donc, j'ai voulu qu'il y ait deux cartes de géographie physique. Donc, la première carte, c'est simple. Ça part d'une idée. Le Moyen-Orient, c'est chaud. Donc, elle est toute rouge, la carte. Et la deuxième carte, c'est sec. Donc, il y a du bleu, mais il est sur les bords. Et le centre, il n'y a pas de bleu. Donc voilà, ensuite, bien sûr, on peut rentrer dans le détail et la carte devient à lire, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est effectivement un élément important. Ce que vous avez, c'est que les précipitations, elles sont soit dans les régions tropicales, donc c'est des précipitations d'été, et ça va nous donner le Nil, parce qu'évidemment, s'il y a un fleuve halogène, c'est d'abord celui-là. Et puis, elles sont dans les montagnes du système alpin, ou en large, enfin, le grand système de montagnes qui va des Alpes à l'Himalaya. Et donc, ça concerne la Turquie, le Caucase, les Balkans, et ça nous permet d'avoir les grandes vallées hein, qu'on a évoquées. Il y a une branche iranienne, d'ailleurs, qu'on voit sur la carte. Et vous avez ce croissant. Hein,
croissant fertile.
Voilà, qui est le croissant historique où sont nés, justement, les toutes premières forme d'agriculture.
Alors, avec en plus, c'est ce qu'on nous raconte dans le mythe biblique, la migration de Our, du pays de Canaan, qui se transforme, quoi.
Oui, alors, migration, migration de population, sans doute, migration de mythes aussi, hein, oui. Le mythe du déluge, hein, pour rester dans l'eau, du côté qui
on retrouve chez Gilgamesh.
De Gilgamesh, et puis petit à petit va infuser, percoler, pour rester dans le dans ce dans vocabulaire dans hydraulique, on va dire, une culture proto-biblique, puis biblique, avec ce mythe du déluge, ces mythes du déluge, en fait, parce qu'il y en a plein, hein, oui. qui sont toujours des mythes des origines. Alors, effectivement, il y a l'Anatolie qui est un château d'eau. Il y a aussi les monts du Zagros. Hein,
alors, il faut dire où c'est, toujours. Parce que, on en a parlé à propos des bombardements.
C'est là-haut, c'est en Perse et en Iran. Oui. Bon, il y a un ensemble, hein, dans cette région qui est très peu connu. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà été en Iran, sans doute quelques-uns. Voilà, une main, c'est tout. Deux, trois, quatre, bon, voilà. Mais par contre, qui ont déjà été en Égypte, levez la main. Voilà, bon, ben voilà. Et en Turquie, à mon avis, ça va faire un peu pareil. La Turquie, ouais, généralement, c'est souvent pareil. Bon, il y a des contextes géopolitiques qui font que, voilà, il y a en ce moment, il y a depuis maintenant 45 ans, un pays, une civilisation massive dans ce Moyen-Orient, qu'on appelle la Perse, qu'on appelle l'Iran, dans lequel moi j'ai eu la chance d'aller deux fois avec mes enfants, y compris de faire des randonnées dans le Zagros. C'est sublime, c'est hyper vert. Et qui nous échappe très largement, enfin, dans nos représentations. Quand on pense Iran, on pense à des trucs souvent assez terribles, mais on ne pense pas.
Voilà. On n'avait pas de cartes. Hein, il a fallu. Enfin,
je veux on dire, a eu beaucoup d'histoires.
Ils ont fourni des tas de cartes.
Très intéressant. On était. Alors, il y a peu de spécialistes. Pourquoi ? Parce que pour faire de la recherche, il faut aller sur le terrain, et c'est très compliqué de faire de la recherche de terrain en Iran. Comme vous le savez, il y en a qui se sont retrouvés en prison pour moins que ça.
Bien sûr.
Les quelques spécialistes sont assez âgés, on va dire, parce qu'ils étaient. Non, mais ça veut dire qu'ils avaient commencé leur recherche avant 1979, pour dire les choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, sur des cartes, on avait du mal, en fait, à rassembler de la donnée. Hein. C'est important toujours de dire que la carte, c'est, enfin, fabriquer une carte, c'est un peu comme fabriquer un discours historique. Il faut avoir de la donnée, quoi. Ça part pas de nulle part. Puis le dernier truc que je voulais raconter sur l'eau, parce que quand même, comme vous l'avez dit, j'ai passé 8 ans, moi, à travailler juste sur l'hydrohistoire de Jérusalem, là, vous voyez, au milieu. Il y a un truc très intéressant dans cette ville de Jérusalem, mais aussi Hébron, plus au sud, Bethléem, puis Ramallah et puis Naplouse, c'est qu'elles sont toutes sur la ligne de crête de la dorsale palestinienne. Alors, c'est pas aussi énorme que le Zagros, hein. Mais ça monte quand même à 900 mètres, on va dire. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'ouest de cette dorsale, bah, il pleut même pas mal, hein, 500 mm par an. Et dès que vous passez la ligne de crête, vous êtes littéralement dans un climat semi-désertique, puis désertique. Et ça aussi, pour à l'évidence, cette géographie explique l'histoire, hein. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à mieux comprendre l'histoire de Jérusalem, pas seulement par les conquêtes, pas seulement par la religion, etc., mais en fait, en regardant la carte, en regardant où il pleut, où il pleut pas, par où arrivent les prophètes, généralement du côté où il pleut pas, toujours du désert, je sais pas si vous avez vu, il y a...
Bah, Ninive, voilà, par exemple.
Exactement. Les pèlerins arrivent de là où il pleut, enfin, avec les marchands, avec tout ça, et les prophètes arrivent de l'autre côté, puis se retrouvent au milieu, et ils fondent éventuellement une religion monothéiste.
C'est normal, parce qu'on
vais très vite.
On appelle ça des anachorètes. Donc,
comme quoi la géographie peut vraiment expliquer des choses historiques très, très concrètement.
Alors, on va rentrer, non pas dans le vif du sujet, parce qu'on y est déjà en plein dedans, mais il faut qu'on avance sur la carte suivante. Alors là, c'est l'histoire d'une bataille, hein, entre autres. On va la voir. C'est l'Égypte du Nouvel Empire, hein, donc face aux Hittites. Alors il faut savoir que on le voit en rouge, la bataille de Kadesh. Pour dire les choses simplement, Kadesh, ça se situe quasiment aujourd'hui au sud du Liban, hein, entre Beyrouth et le fleuve Litani, hein, à peu près. Et c'est une bataille qui est tout à fait extraordinaire, puisque c'est donc 1274 avant notre ère. C'est quand on connaît cette histoire, c'est un numéro de propagande extraordinaire de Ramsès II qui raconte à peu près n'importe quoi. Enfin, c'est le grand-père de Trump dans la catégorie. Je raconte une contre-vérité. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il faut que vous nous l'expliquiez.
Alors, la bataille de Kadesh, elle est dans toutes les batailles, Dieu sait s'il y en a, et en particulièrement dans cette région, elle est celle qui a une caractéristique, c'est la première sur laquelle nous avons une documentation. Il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais elles nous ont laissé aucun texte. Alors, évidemment, là, on n'a pas la version hittite. Ce qu'on sait, c'est ce qui se passe après. Les Égyptiens n'avancent pas, ils sont obligés de négocier, et d'ailleurs Ramsès II va épouser une fille.
C'est ça,
y a un compromis qui se fait, donc finalement c'est au mieux match nul.
Une espèce de non-censure, quoi.
Mais bon, évidemment, si on regarde le texte égyptien, c'est la gloire de Ramsès II, c'est, avec des chevaux, d'ailleurs, que, oui. dont je parlais tout à l'heure. C'est bon, donc c'est, ça nous montre ce qui se passe dans cette région. Vous voyez qu'à partir de petites villes, il y a eu des petits états, puis ensuite il y a eu des constructions géopolitiques, puisque vous avez ici la présence de trois grosses institutions géopolitiques, et on est dans un moment d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas lesquelles vont prendre vraiment l'avantage. Donc vous avez les Hittites, qui correspondent à l'Europe, la direction, même si c'est l'Anatolie, la direction ouest, la Babylonie. On voit les Assyriens qui apparaissent. Et puis il y a l'Égypte qui est en pleine puissance, la 18e dynastie. Donc vous avez là quelque chose où l'équilibre n'est pas évident. Et ça, c'est une histoire presque récurrente, le présent d'ailleurs n'y faisant pas exception, où quelque chose ne va pas être la direction. Qui va prendre l'avantage, ce n'est pas évident. Alors ensuite, les choses vont progressivement se réconcilier par l'extérieur. C'est-à-dire que là, vous avez dans le croissant fertile trois grandes constructions, même quatre avec les Hittites, géopolitiques. Mais ensuite, il y aura d'abord les Perses, puis les Grecs, mais qui vont reprendre en fait l'Empire perse, puis les Romains et les Parthes, de nouveau les Perses en fait, qui vont réconcilier cette région qui va être une ligne d'affrontement. Et alors là, c'est pour longtemps.
Vincent ?
Je voulais dire exactement la même chose, alors je vais pas répéter. La seule chose qu'il faut repérer, c'est les hachures. Les hachures, c'est un des trucs. Des cartographes, alors ils essayent de l'utiliser avec parcimonie, parce que ça peut être parfois une facilité. Enfin, c'est quand on ne sait pas trop.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que soit qu'on ne sait pas trop, soit que ça bouge beaucoup, soit que ça change tout le temps.
C'est un terrain d'affrontement aussi.
Et voilà, c'est ça. Ouais. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les cartographes essayent de faire ce qu'on appelle cartographie un peu plus dynamique, c'est-à-dire de montrer en fait. De rappeler à celui qui regarde, comme l'a dit Christian, une carte, c'est d'abord à voir, c'est que les lignes ne sont pas, surtout pas à l'époque, hein, y a pas un douanier, y a pas de taxe douanière à l'entrée, enfin, c'est quand même assez flou tout ça. Alors, par moment, les gens de cartographie, vous voyez, ils font un halo comme ça, un petit peu plus flou, hein, voyez, autour de tout ça, ou alors on fait des hachures pour dire que ça, en fait, ça arrête pas de changer, donc cherchez pas une ligne nette. Et c'est souvent là que ça devient intéressant. Hein, c'est là que ça devient intéressant. La ligne, par exemple, entre le monde turc et le monde syrien, elle va rejouer pendant très 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 longtemps, jusqu'aux années 2020, hein, comme vous le savez. Et c'est là que tout s'est joué, quoi. Voilà.
Avec la situation des Kurdes en particulier. Et alors, vous disiez, Christian, il y a un moment où les choses vont changer. Ben, on va le voir tout de suite. C'est 336 avant notre ère, 336-323, l'Empire d'Alexandre. Alors là, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il va très loin avec son cheval bucéphale.
Alors, il va en fait beaucoup plus loin sous forme de légende.
Mais c'est ça.
Parce que la légende,
comme disait l'autre, si la légende est plus belle que la vérité,
absolument,
imprimer la légende. Hein, oui,
voilà. Mais la légende d'Alexandre, d'Iskander, elle va depuis le Mali jusque à la Mongolie, en passant par l'Asie centrale, le Pakistan, etc.
On le retrouve dans
oui.
l'histoire.
Oui, oui, oui. C'est un personnage mythique qui a créé un grand empire. Et dès qu'on a l'empreinte des religions du livre, donc là, en l'occurrence, ça serait plutôt l'islam, c'est celui qui a verrouillé jusqu'à l'Apocalypse Gog et Magog, les cavaliers de l'Apocalypse. Donc, il a été complètement retravaillé, réinterprété. Donc, ça va beaucoup plus loin que son propre empire et de la liste des Alexandries, les 13, je crois, qu'il a fixé.
C'est pas ce qui manque. Hein.
Sinon, vous avez par ailleurs quelque chose qui illustre parfaitement la logique que le grand géopoliticien Ibn Khaldoun a conceptualisé au XIVe siècle, c'est à partir d'une petite périphérie dynamique que l'Empire va être conquis, puisque l'Empire perse, qui en gros régional, c'est le Moyen-Orient en état, quoi, en gros, c'est un petit groupe qui sont les Grecs regroupés par les Macédoniens qui vont réussir à conquérir cet empire. Dans le prochain numéro de Carto qui paraît, j'ai d'ailleurs pointé un épisode de cet empire d'Alexandre qui est le siège et le massacre de Gaza.
Mmh. Oui, voilà. Parce qu'on voit effectivement sur la carte. Hein,
tout à fait. Alors, on voit Gaza, on voit Sidon. Ouais. Ça, pour le coup, c'est tout à fait documenté, c'est tout à fait juste. Mais ce qu'a dit Christian, il faut le redire sur toutes les époques, c'est-à-dire que c'est une région qui regorge aussi de mythes. Et il y a plein de villes qui auraient voulu accueillir Alexandre. Hein, c'est comme le lit du général de Gaulle dans certains hôtels où voilà, il faut qu'il y ait, ou alors il a dîné là ou quoi. Bon, et Alexandre, il n'a pas pu aller partout et a priori, il ne faisait pas des zigzags. Et il y a une ville, évidemment, qui est Jérusalem. C'est pareil, il n'était pas possible que Alexandre ne passe pas à Jérusalem. Et pourtant, quand on regarde la carte et qu'on fait un peu de, on se dit, ben non, si j'avais été lui, je serais pas monté par là. Il était logique. Il arrivait de d'Égypte, il remontait et donc il graisse sur la plaine littorale. Gaza, Sidon, etc. Il ne va pas aller monter à 800 mètres de haut dans des chemins escarpés pour y faire quoi. N'empêche qu'il y a plein de récits qui sont touchants de vérité, sauf qu'ils sont faux, de Alexandre à Jérusalem. Et puis, comme on n'aura pas le temps de le redire, ce qui est drôle, c'est de voir les récurrences. Le général Bonaparte aussi, qui fait à peu près le même chemin, hein. Part d'Égypte, etc. Il remonte, il prend Gaza.
Il passe à Saint-Jean-d'Arc.
C'est toujours compliqué. Voilà, il va prendre Saint-Jean-d'Arc, il y a la peste, etc. Et on raconte, alors là, c'est jusque dans le Journal des débats, qui est imprimé en France, on lit que Bonaparte est à Jérusalem, et il publie même un appel, etc., l'appel du général Bonaparte à Jérusalem. Il faut qu'il passe à Jérusalem. Donc, vous voyez, il y a des polarités comme ça. Il faut que ça rejoue. Et puis, je termine juste sur Gaza. C'est aussi très frappant. Gaza a toujours été, que ce soit la ville ou Deir el-Bala, enfin, toute cette région-là, c'est le carrefour du carrefour, hein. C'est le carrefour dans le carrefour. C'est un lieu d'une grande opulence. Et à Gaza, il y a quelque chose qui est très compliqué à faire, c'est des murailles en pierre. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de pierre, hein. Il y a du sable, il y a un sol extrêmement friable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait depuis toujours à Gaza pour se défendre contre l'ennemi? On creuse des tunnels. Depuis toujours. Parce que c'est très facile à creuser. C'est du sable à peine durci. Enfin, voilà, je sais pas, il doit y avoir un vocabulaire pour ça. Voilà, des grès, merci, des grès. Ça se creuse tout seul. Ça ne tombe pas. Par contre, aller faire des murailles, vous ne pouvez pas. Donc, l'histoire des tunnels de Gaza, je peux vous dire qu'elle remonte et que tous les conquérants s'y sont
cachés. Alors, à propos de conquête, on passe à une cinquième carte. Là aussi, on voit... Alors là, pour le coup, ça nous ramène un peu au Mali, qui est plus au sud. Hein, mais on voit les conquêtes arabes. Donc, 7e, 9e siècle, c'est extrêmement spectaculaire. On voit évidemment... la fameuse bataille de Poitiers qui en fait a lieu à Vouillé, si mes souvenirs sont bons, à Poitiers ou à Vouillé, enfin bon, on sait pas trop, hein. En tous les cas, certains diront que Charles Martel a sauvé la France, qui n'existait pas à l'époque. Je regarde parce que il y a aussi le fameux royaume Al-Andalus, hein, qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de Christian ou Vincent, on peut alterner, hein, de cette immense zone là de conquête sur 3 siècles, hein.
Bah, d'abord, on a eu une illustration au départ, si j'ose dire, au 7e, 6e, 7e siècle, de ce que Vincent a évoqué. C'est-à-dire, c'est la zone de fracture qui correspond en gros à la Mésopotamie entre un monde occidental qui est l'Empire byzantin, Égypte comprise, hein, d'ailleurs, à ce moment-là, et puis un monde oriental qui est la Perse. Et il y a 3 siècles à peu près d'un affrontement sans fin. Résultat, les échanges passent par le sud. Et c'est la croissance considérable, une croissance économique considérable des caravanes et des sites caravaniers, comme Médine, par exemple, et donc d'un certain nombre de structures familiales de caravaniers. Jusqu'à ce qu'il y ait un épuisement en particulier, et donc amène un minimum de paix et de réconciliation, ce qui pose problème aux caravaniers. C'est exactement le contexte de Mahomet, hein, ce que je suis en train de vous décrire. À partir de là, vous avez cette explosion de conquête, dont il ne faut pas oublier que les cartes sont largement un abus. Je veux dire par là qu'on a tendance, puisque c'est difficile de faire une carte des empires dits musulmans autrement qu'en vert, mais l'Égypte, par exemple, ne devient à majorité musulmane qu'au 13e, 14e, bon, en tout cas pas au 9e siècle. Hein. Ça serait vrai, évidemment, bien ailleurs. Donc, vous avez, mais les dirigeants le sont, musulmans, hein, comme en Inde, par exemple, les Moghols plus tard, hein, ils sont musulmans, mais c'est pas pourquoi que la population l'est. Donc, vous avez une construction géopolitique qui, à son tour, additionne les éléments, puisque au fond on a un héritage du monde romain dans la partie méridionale de Méditerranée, avec une résistance du vieil empire d'Orient, et puis l'héritage perse en gros dans la partie orientale, et l'addition des deux avec des poussées un peu plus loin, puisque ça va au-delà de l'Indus, ça va en Asie centrale, mais enfin c'était le monde perse, hein, qui poussait généralement jusque-là. Donc vous avez quelque chose qui correspond bien à cet Occident, hein, ce qu'on appelle l'Orient, moi je l'appelle l'Occident dans cet axe de l'ancien monde, vous avez ce phénomène qui va durer et qui aujourd'hui laisse des nostalgies assez délétères.
Oui, alors donc je vais vraiment appuyer ce que dit Christian, cette fameuse conquête arabe, mais il y en a plein dans l'Atlas. Même Alexandre, etc. Comment on peut conquérir un si vaste territoire en si peu de temps et tout ça? Ben c'est sans doute que ça correspond pas à ce que, enfin, c'est un mot pour dire deux choses différentes, quoi. Passer de ville en ville, tenir les routes, et puis s'assurer en fait de la loyauté du gouverneur en place ou du satrape en place ou peu importe comment on l'appelle. Et puis s'il faut, on en convertit quelques-uns, mais pas forcément tous. C'est une région où effectivement il y a une diversité religieuse qui reste très très tard. Vous le savez, hein, donc en Égypte c'est les Coptes. Mmh. Les Coptes ont quand même donné leur nom au pays lui-même. Hein. Si l'Égypte s'appelle l'Égypte, c'est parce que c'est le pays des Coptes. C'est la même racine. Hein. Les Coptes ne sont pas sont au cœur de l'histoire égyptienne. Et puis il y a ces conquêtes qui conservent bien souvent les structures administratives. Mmh. Quand on regarde l'administration islamique pendant les deux premiers siècles, c'est une administration byzantine. Hein, c'est vraiment les mêmes provinces, les mêmes frontières, les mêmes. Ils ne sont pas embêtés. Hein, c'était bien fait. Ils ont laissé à peu près les trucs. Et d'ailleurs, souvent même les mêmes toponymes. On dit toujours que Jérusalem. Oui, il y a un seul truc que je connais bien, c'est Jérusalem. Le reste, vous avez vu, c'est. Donc je ramène toujours tout. Jérusalem, on dit, c'est Yerushalayim ou Al-Quds. Mmh. Mais depuis quand? Depuis quand? Non. Quand je regarde dans mes archives, jusqu'au 12e, 13e siècle encore, et ça va durer, les musulmans appellent Jérusalem Ilia. Alors, pourquoi Ilia? Vous me direz, c'est bizarre. Ilia. Ben, en fait, c'est juste le nom romain Aelia Capitolina. Ilia. Et d'ailleurs, ça a donné des grosses erreurs, des grandes erreurs à des historiens et des chroniqueurs de l'époque, parce que le calife Omar, vous connaissez quand même hein, le calife Omar, qui est le plus proche de Mahomet, donc c'est quand même lui qui s'occupe d'une bonne partie de la conquête dont on est en train de parler. Évidemment, c'est un peu comme Alexandre et comme Bonaparte, il fallait qu'il passe à Jérusalem, le calife Omar. Ben, en fait, entre nous soit dit, a priori, il n'y a pas été. C'est pareil, il ne s'est pas embêté, il est passé par là. Et en fait, il a été, mais il y a une chronique qui dit, mais il était à Elia, etc. Ben en fait, il était sans doute à l'actuel Elat. Hein, quand on regarde un peu la description des lieux, on dit, mais c'est pas possible, il y a la mer et tout ça, donc ça va pas, c'est pas Jérusalem. Bref, voilà, il y a des conquêtes, mais il y a des structures. Alors, qui restent en place, et il y a des toponymes qui.
Je suis désolé, il faut vraiment qu'on accélère parce que je vois, c'est tellement passionnant qu'on va passer la soirée. Hein. Là, on a les premières croisades. Je vais vite là sur les premières croisades, si. Hein, là aussi, j'avance. Ça, c'est un sujet qui a fait débat, d'ailleurs, y compris dans l'historiographie, on le sait bien. C'est les traites islamiques du 7e au 19e siècle, sur 12 siècles, avec une population très nombreuse. Pourquoi vous avez voulu la mettre, cette carte?
Parce que c'est une forme d'extension très importante, d'emprise très importante de ce monde moyen-oriental étendu, puisque là, il va effectivement jusqu'au Mali et à l'Asie centrale, et même tout le nord de l'Inde, et qui affecte une partie du monde qui est en position périphérique depuis très très longtemps, bien avant le 16e siècle, qui est l'Afrique subsaharienne. Bon, donc les traites atlantiques, on peut tendance à occulter l'ensemble des traites de populations africaines qui existent depuis au moins le début de notre ère et qui ont mené des descendants d'esclaves africains jusqu'en Chine.
Mmh. On parle de 17 millions de... c'est très compliqué, oui, alors, à estimer.
On n'a pas des statistiques sérieuses. Alors. C'est un peu sérieux sur l'Atlantique parce qu'il y a des,
oui, bien sûr.
Y a des documents
plus,
européens.
C'est beaucoup plus court dans le temps.
Oui, 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 c'est trois siècles. Ouais. Mais là, effectivement, c'est beaucoup plus long et plus important. Oui. Moi, je pense que ça ne minimise en rien la traite atlantique.
Je ne crois pas qu'il y ait eu de débat sur le fait qu'elle y soit ou qu'elle n'y soit pas. Il n'y a d'ailleurs pas de polémique entre historiens. C'est des sujets qui sont parfaitement connus, parfaitement documentés. C'est juste des thématiques historiques qui sont instrumentalisées par des gens qui ne sont pas du tout des historiens et qui font boutique de ce genre de polémique. Mais parmi les historiens, il y a de polémique qu'il n'y a pas en vérité.
J'ai voulu montrer une carte parce qu'on parlait des distances. Hein, et là, alors là, il y a quelque chose qui change complètement. C'est le percement du canal de Suez. Hein, et il faut que vous nous expliquiez. Ben, c'est immédiat, la lecture est immédiate, ça donne au détroit de Bab el-Mandeb une importance stratégique phénoménale. Hein. C'est le détroit à la hauteur de Djibouti aujourd'hui. Quoi, hein. On passe de... On a un facteur 3, hein, pratiquement, de changement de kilomètres, non? Un peu moins.
Oui, enfin... 2,5. Bah, vous avez les chiffres, là.
Oui.
Oui, oh, bah, tout à l'heure, il ne faut pas oublier en plus une chose, c'est que néanmoins, la circulation dans la mer Rouge n'a jamais été facile, même quand il n'y a pas les outils qui tirent sur les bateaux. Hein. Donc, la route portugaise, pour aller vite, hein, c'est eux qui ont le premier initié, même si on invente...
Ça, c'est la bleue.
La bleue, ouais. Mais qu'on a évidemment ensuite beaucoup repris. C'est la route des compagnies des Indes, hein, ultérieurement, au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui est long, mais finalement relativement balisé et assuré. La route, la mer Rouge, c'est, mais à partir du moment, c'est plus compliqué, mais à partir du moment où il y a eu le canal de Suez, création française, hein, vous savez, eh bien, c'est vrai que les Indes sont devenues beaucoup plus proches de l'Europe occidentale. Alors, les Anglais, évidemment, ont tenu à contrôler ça à leur époque de leur grand empire.
Oui.
Dans cette même double page, je profite que vous tourniez votre... on raconte aussi le fameux canal des pharaons,
hein,
qui n'est pas simple à documenter, mais qui a priori attesté. Hein, donc c'était évident pour une puissance égyptienne, quelle qu'elle soit, Nasser n'a pas inventé tout ça, qu'il fallait essayer de connecter la mer Rouge et le système du Nil, et donc la Méditerranée. C'est vraiment l'enseignement que, voilà, si on ne regarde pas attentivement une carte, il y a des choses majeures, absolument majeures, qui nous échappent, et des causalités, en fait, dans l'histoire, qui on passe complètement à côté.
Alors, on franchit complètement le temps, on arrive en mai 1916, et là, il va y avoir des accords dont on a reparlé, et en particulier autour de Daesh et de l'État islamique, les fameux accords secrets Sykes-Picot. En fait, c'est François Georges Picot, ça c'est le nom du diplomate français, et Marc Spice. Sykes, pardon. Voilà, j'ai fait une faute sur le premier nom. Ces accords, qu'est-ce qu'ils disent et pourquoi sont-ils secrets? Et pourquoi sont-ils à ce moment-là, en mai 1916, alors qu'on est en pleine guerre 14-18?
En fait, on pourrait passer plusieurs heures ou un semestre entier sur l'histoire des accords Sykes-Picot. Il y a des volumes là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir, vous avez dit qu'il y a des... alors d'abord, c'est des accords qui ne vont pas être finalement complètement appliqués. Hein, c'est-à-dire les mandats ne vont pas suivre la ligne des accords. Donc, on prend des décisions. Et ça fait... Mais ce n'est pas appliqué sur le terrain. Mais bon, ça, dans la région, il y en a beaucoup. Et pourtant, ça peut rester actif parfois des décennies après, et rejouer sur des discours, voire plus que des discours, parce que Daesh s'amusait à un moment à soi-disant faire tomber, je ne me souviens plus,
ils avaient mis en scène... Il y avait une rhétorique autour de ces accords.
Oui, ils avaient fait tomber une frontière, l'ancienne frontière, l'ancienne frontière coloniale des accords Sykes-Picot. Ce qu'il faut retenir, le plus important de tout ça, c'est qu'on est en train de passer d'un monde à un autre. On est en train de passer du monde des empires au monde des États-nations. Voilà, en gros.
Donc clairement, c'est l'Empire ottoman qui s'est
fait. Ben, l'Empire ottoman, mais c'est au même moment, c'est l'Empire austro-hongrois. C'est le moment où on change de paradigme et c'est plus du tout pareil. Un empire, c'est a priori assez grand. Et un empereur, qu'on appelle Basileus, qu'on appelle sultan, qu'on l'appelle peu importe, un empereur, il tire sa légitimité du fait qu'il règne sur plusieurs peuples, plusieurs ethnies, plusieurs langues et plusieurs religions. Sinon, c'est plus un empereur, il rétrograde au niveau... roi, royaume. Je vais vite, hein, mais en anthropologie politique, en gros, c'est ça. Donc, le fait, en fait, d'être souverain pour plusieurs peuples et plusieurs langues et plusieurs religions est constitutif de l'idéologie impériale. D'accord ? C'est pour ça que cette diversité ethno-linguistique et religieuse, elle est si importante dans le contexte impérial. À la fin du 19e, début 20e, on bascule dans un autre paradigme, hein, le paradigme de l'État-nation. Ça veut dire quoi? Pour chaque nation, il faut un État. Donc tout le monde. Donc l'Europe centrale, etc. Et au même moment, exactement après la Première Guerre mondiale, les fameux 14 points de Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'autodétermination, etc. Donc à chaque nation, il faut son État. Et donc dans la région, ça va être particulièrement compliqué. Et comme les puissances coloniales considèrent que dans cette région, les nations, c'est-à-dire les peuples, ne sont pas mûres pour accéder à l'autonomie, eh ben on va les mettre sous tutelle, donc sous mandat. Ça veut dire que c'est comme dans une réunion de copropriété. Hein. La Société des Nations a donné mandat à la France et à la Grande-Bretagne de s'occuper de ces peuples, de ces nations, pour qu'ils acceptent à l'auto, pour qu'ils acceptent à l'autodétermination.
Ça, c'est après le 11 novembre 18, effectivement, mais même après...
Ah oui, mais les accords Sykes-Picot préparaient exactement ça.
Ça prépare ça, c'est ça.
Totalement, totalement. C'est l'espèce de Yalta, c'est l'espèce de Yalta régionale.
Et on sait que Laurence d'Arabie, par exemple... intervient dans ce jeu.
Laurence d'Arabie, il est hyper important parce qu'en fait, il est là pour soulever les tribus arabes contre l'Empire ottoman. Et donc, comment on va soulever les tribus arabes ? Et ben, on va leur promettre ensuite des autonomies et des souverainetés, et des pays et des royaumes. Voilà. Et en même temps, comme vous le savez, un certain Lord Balfour, en novembre 1917, promet, c'est la déclaration Balfour, pour les Juifs, un foyer national juif en Palestine. Donc, on fait des promesses aux uns et aux autres parce qu'on a besoin de tout le monde. Et ensuite, il se passe ce qui doit se passer.
Christian.
Non, je dis rien parce qu'il reste 9 minutes d'off-carte. Alors.
Oui, bon, ben voilà. Hein. Ah oui, mais c'est parce que vous êtes trop passionnant. Le pétrole depuis 1908. Alors, je précise qu'on n'est quand même pas à la radio, on peut déborder de 5 minutes, hein, ça va quand même.
Hein. Bon, alors, évidemment, tout le monde sait qu'on est au pays de l'or noir. Hein.
C'est ça.
D'ailleurs, une chose manque dans notre atlas, c'est la géographie du Kemed. Vous connaissez peut-être Abdallah, hein, le fils du sultan du Kemed, c'est dans Tintin.
Avec son pistolet à eau.
Voilà. Bon. Non, c'est très intéressant de se demander où c'est, mais enfin, c'est pas justement, on l'a pas mis. Alors, une chose importante, c'est qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, en Europe occidentale, on invente et on développe des moteurs à explosion. Pour les autos d'abord, les motos, les bateaux, pour des tas d'autres choses. Et on invente de la chimie pétrolière, de la chimie organique. Et donc, vous avez des besoins, l'Europe ayant encore du charbon, mais n'ayant pas de pétrole. Donc, le pétrole le plus proche et abondant, bah, c'est là. Donc, les Britanniques d'abord dans le Golfe, mais ensuite, on en trouvera un petit peu ailleurs dans la région, vont découvrir du pétrole qu'on connaissait, en fait, découvrir, c'est beaucoup dire, parce qu'on le connaissait depuis l'Antiquité. Les calfatages de bateaux se faisaient avec de la poix, se faisaient surtout avec du goudron. Les bateaux sumériens, les bateaux babyloniens, des bateaux ronds qu'on mettait, c'était justement avec des produits locaux parce que ça sointait et on n'avait pas de mal à en trouver. Donc, et puis bien sûr, on le brûlait, les fameux feux grégeois aussi de l'Empire qui donnait une supériorité technique aux bateaux byzantins, c'était du pétrole, hein, tout simplement. Donc vous avez là quelque chose dont l'utilisation va exploser et va donner un accord au Golfe. C'est là que naît petit à petit cette notion géopolitique et une géographie différente qui modifie d'ailleurs progressivement la carte et la décale vers l'Est.
Carte suivante. Là, on est dans la guerre. Vous avez dit 6 jours qui vont complètement redessiner la carte du Proche-Orient. Vincent, je vous laisse commenter.
Oui, c'est une carte qu'on connaît un petit peu mieux, mais encore une fois, il faut vraiment la voir d'abord. Il faut la voir et se rappeler de cette information la plus importante, c'est que en six jours, Israël avait quadruplé son territoire, multiplié par 4. Alors, en fait, après, ça ne va pas être exactement ça, parce que finalement, comme vous le savez, le Sinaï va être rétrocédé
en 76.
À l'Égypte, voilà, dans les années 70, et ensuite les accords de Camp David. Mm-hmm. Mais voilà, on sait ce que c'est que la guerre de 67. Hein, c'est une guerre préventive qui est déclenchée par les Israéliens contre l'Égypte et la Syrie, en fait, pour prévenir en fait, une future guerre. Et ça, c'est... Ça nous rappelle aussi beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de déclencher des guerres préventives, comme par exemple les États-Unis contre l'Irak en 91? Je suis sûr qu'il va m'attaquer avec des armes de destruction massive, vous vous souvenez?
Ça, c'est plutôt 2003, ça.
C'est la deuxième, pardon.
2003, oui.
C'est la deuxième, c'est 2003. Ouais. Les frappes préventives israéliennes sur l'Iran au mois de juin, le 13 juin, enfin voilà. C'est aussi dans cette région, le Moyen-Orient, qu'on a forgé une bonne partie du droit international qui court après un petit peu après ces réalités et la guerre des six jours évidemment c'en est un
et puis c'est la simple, c'est les fameux territoires occupés avec la résolution de l'ONU la 242 c'est ça non je sais plus combien
oui c'est la 242
qui n'est pas appliquée du tout quoi
voilà et sur la page de gauche que vous voyez pas on a des hachures parce que des hachures pour la Cisjordanie parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a un territoire il faut bien sur lequel il y a que des soldats israéliens et sur lequel, jusqu'en 1978, il n'y a que des Palestiniens. Alors, on n'a pas envie de le... Et puis en plus, c'est un territoire occupé. Ouais, donc on va pas le corriger, on va pas le colorier en bleu.
On va le voir, ce territoire, d'ailleurs.
Voilà, on va pas le colorier en bleu ou en jaune. Enfin, on va pas... ce serait sur le plan éthique, sur le plan juridique, ce serait pas... voilà, ça n'est pas Israël. Et pourtant, il n'y a que des soldats israéliens et ils y font la pluie et le beau temps. Donc, eh ben, donc on met des hachures. Voilà. C'est encore un cas...
On zoome là sur ce que vous appelez la paix sabordée. Ça, c'est consécutivement à l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui fait capoter les accords d'Oslo de 93, c'est ça, hein?
Oui.
Oui. Et donc, l'assassinat de Rabin, de mémoire, c'est en novembre
1995.
Vous nous expliquez peut-être cette carte qui est taffetée de couleurs différentes. C'est,
oui,
c'est
et puis alors, oui.
Incompréhensible. Quoi.
Alors, d'abord, c'est incompréhensible. On a essayé de faire au mieux. Hein, donc, vous voyez, on a un mur. Ce qu'on voulait représenter, c'était montrer que le mur, eh ben, par moments, il rentre très, très, très profondément à l'intérieur du territoire cisjordanien. Et parfois, de façon un peu absurde, on dit, qu'est-ce que ce mur qui ressemble par moment à un couloir ? Mais parce que par moment, il faut faire un couloir pour aller récupérer une colonie, une grande colonie, par exemple, Ariel. Et donc, on fait quasiment... En fait, à un moment, le mur, il longe juste de part et d'autre une route jusqu'à atteindre une colonie où là, ça va être à nouveau plus large. C'est ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette carte, par définition, elle est fausse parce qu'en fait, elle évolue très vite. Donc, elle est déjà dépassée. Il y a un site qui s'appelle le site de Hotcha, où en fait qui est mis à jour pratiquement d'une semaine à l'autre, hein, où on a les avant-postes, etc. Et puis petite histoire cartographique sur cet espace. C'était il y a une vingtaine d'années maintenant, je crois, dans le monde diplomatique, un cartographe absolument génial qui avait, parce que donc on n'y arrive pas, on a du mal, qui avait décidé en fait de représenter la Cisjordanie comme un archipel d'îles. Et donc c'était un coup de génie. C'est-à-dire qu'il y avait des petits morceaux de territoire qui émergent d'un océan. L'océan, c'est l'occupation, on va dire, l'occupation israélienne. Et puis, il y a un archipel, donc il y a des îles. Et là, on comprend beaucoup mieux d'un coup.
Les îles sont palestiniennes.
Voilà, exactement. Ah, ben oui, mais de fait, Ramallah, Hébron, etc. Si vous habitez à Ramallah et que vous avez un cousin à Bethléem, si vous avez une carte d'identité israélienne, vous passez en à peu près 20-25 minutes en voiture. Si vous n'en avez pas, c'est la journée. Voilà. Donc, en fait, et ça, c'est comment la cartographie peut représenter ces difficultés-là territoriales à des échelles évidemment si fines, quoi.
On voit, il y a des petits losanges bleus. La légende dit colonie israélienne illégale aux yeux de la loi israélienne. C'est ça, ces petits losanges bleus là qui
Alors, bien sûr, parce que
qui pousse.
Pourquoi est-ce qu'il faut préciser? Si on avait écrit colonie israélienne illégale, point, ça voudrait dire que le carré bleu du dessus, colonie israélienne, c'est des colonies israéliennes légales. Or, les deux sont illégales aux yeux du droit international. On n'a pas le droit d'installer des populations civiles sur un territoire occupé. Hein, ça s'appelle la colonisation de peuplement, c'est interdit. Et donc voilà, il y a effectivement sur ces cartes-là des choses qui se jouent. Très importante dans la représentation carto, mais aussi dans la façon dont on va rédiger la légende. Et je peux vous dire que sur certaines, on s'est arraché les cheveux jusqu'au tout dernier moment.
Je vous laisse, Christian, comme le temps passe. On continue. Un mot là-dessus ou pas? Peut-être où c'est l'Iran? On peut peut-être zoomer sur l'Iran.
Là, c'est surtout sur le côté quasi mondial, oui, des dynamiques qui sont toujours vivantes ici, parce qu'au fond, beaucoup de religions très anciennes nous redonneraient à peu près la même carte. Okay.
Alors, sur l'Iran, parce que là, pour le coup, on est dans une très grande actualité, hein, ouais, puisque votre atlas, vous l'avez fini...
Le 31 juillet. Les cartes ont été mises à jour. Pour le 31 juillet, on avait d'ailleurs un problème qui était la reconnaissance de l'État palestinien.
D'accord.
Parce que ça bougeait.
Annoncé le 24 juillet par le président Macron. Ouais. Donc on a dû changer la carte. Bah, on a mis des hachures parce qu'il a dit que ce sera le 22 septembre. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une mention État ne reconnaissant pas la Palestine. Mais donc c'était en gris. On n'avait pas laissé la France en gris. État reconnaissant la Palestine. On n'a pas la mettre en vert. C'était le 22 septembre. Des hachures. Et hop. Mais là, sur l'Iran, c'est parce que c'est toi qui t'en es occupé beaucoup.
Oui, mais pas de celle-là. Mais effectivement, l'Iran, c'était surtout un problème pour les cartes antérieures, ce qui peut paraître bizarre, mais on l'a dit tout à l'heure. Hein.
Oui.
Notre méconnaissance globale et la difficulté de trouver des spécialistes. Mais là, on a surtout travaillé avec les journalistes du Monde, d'ailleurs, pour pouvoir donner les dernières informations.
C'est le théâtre des opérations, là.
Voilà, c'est ça. Il y a les dimensions dimensions.
On voit la limite des missiles iraniens. Voilà, on voit effectivement les sites, là, les sites nucléaires qui ont été touchés, tapés, Natanz, etc. Ispahan. Hein. Ouais. Là, c'est quasiment une carte d'état-major au sens de.
Ouais, et c'est une carte qu'on a dû modifier effectivement dans les deux semaines qui ont précédé l'impression de l'Atlas.
Avant-dernière carte, alors je renvoie pour celles et ceux qui sont également, enfin qui veulent se documenter. J'ai eu l'opportunité ici pour la librairie Mola de présenter le livre de Jean-Pierre Filiou, un historien à Gaza.
Aux arènes aussi.
Voilà, où il montre où il y a deux cartes qui sont publiées. Donc on voit côte à côte, ça c'est sur la même page hein, pour vous, hein, c'est page 159, à la fois le massacre du 7 octobre hein, et les points d'attaque du Hamas ce jour-là, et puis Gaza après deux ans de guerre. Un mot quand même sur ce lieu, vous disiez c'est un lieu historiquement, là je m'adresse à l'historien de ce lieu du monde, Gaza c'est un lieu qui est un lieu de carrefour, qui était très, 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 oui, très riche.
Oui, on l'a dans des textes égyptiens du 16e siècle avant notre ère. Hein. C'était un avant-poste égyptien, c'est pour ça que c'était. Alors ça veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose avant.
Mais c'est un oasis, c'est quoi ?
Ah oui, c'est oui, enfin, oui.
C'est une nappe phréatique, c'est un oasis, il y a un cours d'eau, il y a.
D'accord, oui, c'est ça. Oui, oui.
Et c'était une région très fertile et très riche, entre autres réputée pour ses poissons.
D'accord.
Gaza jusqu'en 1948, mais d'une certaine manière jusqu'aux années 60-70, c'est le jardin d'Éden. C'est tout le contraire de ce qu'on imagine. Et depuis toujours, c'est un carrefour, donc c'est un endroit où on parle toutes les langues, c'est un endroit où on fait le meilleur commerce possible, c'est un endroit où il y a le plus ancien monastère byzantin du Moyen-Orient, le monastère Saint-Hilarion, et qui est immense, hein, c'est également le plus grand, et qui a été fouillé par les frères de l'école biblique, et dont on a réussi il y a quelques jours à sauver une partie des collections. Voilà, Gaza, c'est tout le contraire d'une prison. C'était un lieu d'ouverture, et c'est pas un lieu comme un autre. C'est pas un lieu comme un autre. C'est un lieu, encore une fois, sur lequel tous les conquérants sont cassés les dents. On n'a pas parlé du général Allenby, mais pendant la Première Guerre mondiale, oui. Juste après les accords Sykes-Picot, je veux dire que le général Allenby, il a eu du mal. Il y a eu trois vagues d'assaut, et pourtant, a priori, voilà. Donc, cette carte, elle est donc effectivement la carte du 7 octobre au-dessus, et puis la carte d'en dessous, on savait qu'elle serait très vite fausse. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, 70% de la bande de Gaza se trouve dans la zone militarisée début juin 2025, c'est quand on imprime. Et ensuite, comme vous le savez sans doute, a démarré début août la phase vraiment, la phase ultime en fait, de la guerre d'anéantissement de Gaza. L'armée israélienne est arrivée jusqu'à 83, 85, 87% de contrôle total, avec toute la population, c'est-à-dire 2,3 millions de personnes concentrées sur 13% d'un territoire déjà extrêmement exigu, donc des conditions absolument dantesques. Mais je vous encourage à regarder la page de gauche, encore une fois, la 158, la carte précédente. On a voulu aussi représenter Gaza avant le 7, et précisément ce territoire... Voilà, ce territoire qui était pauvre, qui était un territoire carcéral dans lequel les gens n'avaient pas le droit duquel les gens n'avaient pas le droit de sortir, mais qui était aussi un territoire d'une immense énergie, d'une immense richesse.
Bah, c'est ce qui ressort vraiment des textes de Jean-Pierre Filliou, hein, dans son histoire de Gaza aussi, par ailleurs. Dernière carte géopolitique de l'eau. On boucle en quelque sorte notre échange, puisqu'on avait commencé par l'hygrométrie. Alors, cette géopolitique de l'eau, elle nous dit quoi ? Parce qu'on va très bas, là, y compris sur les barrages que font les Éthiopiens.
Hein. Oui, alors, la double page sur la géopolitique de l'eau, puisque l'Atlas est comme toute la collection construite en double page, donc la thématique de l'eau concerne aussi l'Euphrate et le Tigre.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
Mais là, c'est précisément pour l'Égypte et le Soudan, qui sont plus dans notre région. Mais évidemment, l'eau du Nil ne vient pas du Soudan, enfin, pour l'essentiel, et surtout pas d'Égypte. Il n'y a pas d'affluent. Donc, Khartoum est là où se rejoignent les deux Nils, mais celui qui vient d'Éthiopie et celui qui vient de l'Équateur, pratiquement. Et vous avez là quelque chose qui est contrôlé en amont. Et jusqu'à présent, l'Égypte pouvait contrôler son amont. Mais maintenant, l'Éthiopie, qui est un pays qui est de même taille démographique que l'Égypte, hein, c'est des pays à un peu plus de 100 millions d'habitants, on a beaucoup plus que la France, hein, chacun, vient de construire un méga barrage pour dynamiser l'économie, reproduire de l'électricité. Et c'est compliqué parce qu'en plus, c'est dans une région où il y a une guerre civile. Mais évidemment, le Soudan et l'Égypte risquent de voir progressivement leur robinet contrôlé par l'amont. C'est un problème qui a de l'avenir.
Ouais, et sur cette même double page, on parle aussi de désalinisation pour montrer qu'il y a aussi des interrelations entre les ressources, les différentes ressources. Parce que pour faire de la désalinisation, en fait, il faut beaucoup d'électricité. Pour faire de l'électricité, on peut éventuellement la faire avec du pétrole. Et donc, vous voyez, on peut utiliser du pétrole d'une certaine manière pour faire de l'eau potable. Et c'est ce qui se passe dans une partie du Moyen-Orient aujourd'hui, parce que cette eau dessalée, c'est une eau hyper énergivore, en fait.
Alors, c'est sans doute un clin d'œil. On avait prévu de montrer la dernière carte, le Moyen-Orient aujourd'hui et demain. Bon, il se trouve que ça ne se fait pas. Le mieux pour l'avoir, évidemment, c'est d'acheter l'Atlas, mais ça, c'est évident. Hein, mais c'était involontaire comme teasing, et surtout pour ne pas spoiler. En quelques mots, c'est très compliqué, ce Moyen-Orient aujourd'hui et demain, est-ce qu'il est condamné à être toujours dans l'affrontement d'après vous? Alors, si j'en crois le président Trump,
c'est la paix perpétuelle.
Il vous dit que c'est
terminé.
C'est le point commun entre Trump et Kant. Ça paraît un peu étonnant, mais bon. Voilà. Allez-y.
Oui, espérons que 10 000 ans de paix s'annoncent après 10 000 ans de guerre. Malheureusement, ça ne va pas s'apaiser comme ça. J'évoquais la guerre, on a encore la guerre de l'eau sous les yeux et les conflits tout à fait militaires que cela peut provoquer. Il est bien évident qu'indépendamment même du conflit autour d'Israël, les raisons de conflits sont nombreuses. L'une des composantes de la carte que vous n'avez pas pu montrer sont démographiques. Ouais. C'est-à-dire, faut pas oublier une chose, hein, une chose très simple. Dans l'Antiquité romaine, par exemple, le grenier à blé de l'Empire romain, c'est l'Égypte. Aujourd'hui,
Cléopâtre le savait bien.
Oui, c'était important de contrôler l'Égypte, parce que à cause des crues du Nil, de la fertilité, mais l'Égypte à l'époque, c'était à peu près 2 millions de personnes. Aujourd'hui, l'Égypte est devenue le premier ou le deuxième, suivant les années, importateur de céréales. C'est pour ça que les problèmes d'exportation de l'Ukraine et de la Russie posent d'énormes problèmes dans la région. Totale inversion liée à une croissance démographique, puisque l'Égypte aujourd'hui, c'est à peu près 110 millions d'habitants et ça ne va pas diminuer. Le fond même, c'est une question démographique dans une région où la place vivable, la place où il y a des rivières, où il y a est très restreinte. Donc, rien que ça, c'est un facteur de difficulté. C'est là aussi où il y a des mégalopoles, puisqu'on est en Égypte, évidemment, le Caire, c'est des mégalopoles de beaucoup plus de 10 millions d'habitants, et il y en a quelques autres dans la région. Vous avez des difficultés, et ça reste toujours, comme à l'époque Sykes-Picot, un lieu de croisement des impérialismes. Les Chinois n'y sont pas encore, mais...
Effectivement, hein, c'est ce qu'on a représenté, hein, c'est les densités de population. Parce que, je me souviens, c'est moi qui ai dû rédiger cette notice. Je peux vous dire que c'était le Moyen-Orient aujourd'hui et demain. Et j'ai commencé comme ça en disant ce qui est frappant, c'est que le croissant fertile, on le voit toujours, en fait. Hein. Donc,
d'occurrence.
Donc, il y a des. Ah non, mais il y a des inerties. Alors, c'est vrai qu'on peut dessaler l'eau, c'est vrai qu'on peut tout faire. N'empêche que les routes passent par là, n'empêche que les grandes villes, n'empêche que les. Il y a aussi des inerties géographiques, qui ne sont jamais des inerties géographiques, Christian, mais qui sont, on va dire, des données structurantes. Ils sont là. Et c'est vrai que cet atlas historique, il est là aussi pour ça. Il y a chaque carte individuellement. Mais il y a aussi de le feuilleter, puis d'avancer, de reculer, de le lire complètement dans le désordre et de vous faire à vous-même des espèces de court-circuits, de dire tiens, c'est rigolo, ça j'ai déjà vu un peu quelque part et tout. On comprend mieux, quoi. Voilà. Comme disait Christian, il faut d'abord voir et puis après rentrer dans le détail.
Voilà, alors ça s'appelle Atlas historique du Moyen-Orient, Le bandeau dit bien les choses, le plus ancien carrefour du monde, 300 cartes et infographies. Merci Christian Grataloup, Vincent Lemire et puis Héloïse Kolebka et les gens de cartographie pour les cartes. On peut vous applaudir. Merci.